au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Damien Leguet.
Nous avons la chance et l'avantage de recevoir aujourd'hui Émile Poula, et donc nous allons consacrer autour du travail et autour de l'œuvre d'Émile Poula deux émissions. La première, que nous allons commencer dès maintenant, sur votre travail, sur votre œuvre, sur la sociologie religieuse qui a été l'objet de toutes vos études. Et puis nous consacrerons une deuxième émission, aussi importante que la première, sur là aussi un sujet très important dans votre œuvre, à savoir la question de la laïcité, la question de la loi de 1905, la question de ce traumatisme qui est absolument central dans toute la sociologie religieuse et dans toute l'histoire des relations entre l'Église et l'État, à savoir ce moment charnière entre 1880 et 1905, pour ne pas parler de la conséquence de la loi de 1905 jusqu'en 1920, qui effectivement a marqué un élément ô combien essentiel et ô combien important de ces relations et donc de cette sociologie. Donc commençons par la première partie et pour mieux essayer de vous comprendre, partons de ce livre donc, que vous venez d'écrire, un livre d'entretien, France chrétienne, France laïque. On peut dire que vous êtes aussi par ailleurs, dans le cadre de vos différentes études, un spécialiste de la laïcité. Vous avez enseigné pendant très longtemps au CNRS et surtout aux études en sciences sociales et vous avez été cofondateur en 1954 du groupe de sociologie des religions.
Exact.
Je vais citer quelques éléments de votre biographie qui est extrêmement fournie. Donc vous avez commencé par Fourier, puis après vous avez travaillé...
Fourier l'utopiste, le socialiste utopiste.
Exactement, voilà. Et donc après vous avez travaillé sur l'Oisy et sur la modernité catholique, et puis sur l'antimodernisme, sur la crise des prêtres ouvriers.
Enfin, l'antimodernisme, c'est l'intégrisme.
Voilà. Voilà. Donc tout ça, ça fait partie effectivement d'un corpus universitaire extrêmement fort. Et on peut dire que d'une certaine façon, j'ai essayé de faire un peu des liens entre tout cela, enfin quels étaient les thèmes dominants. Il me semble que le thème dominant de vos travaux, c'est l'histoire douloureuse de l'Église. Et vous opposez dans votre texte, parce que nous sommes réunis à propos donc de ce livre d'entretien que vous avez eu avec Daniel Masson, qui s'appelle « France chrétienne, France laïque », qui vient de paraître chez Desclée de Brouwer. Donc vous opposez l'histoire douloureuse de l'Église, qui est un peu à l'histoire glorieuse de l'Église, qu'aurait fait René Raymond. Et donc cette histoire douloureuse de l'Église, il me semble qu'on peut la diviser en deux grands mouvements ou deux grands éléments dans vos études. Le premier, c'est d'une certaine façon le conflit organique, enfin les conflits internes de l'Église. Donc c'est les conflits de l'Église avec la modernité. Donc c'est la guerre des deux France, la laïcité, le conflit de l'Église avec les sciences modernes, le problème du modernisme, le conflit de l'Église avec, disons, l'idéologie dominante et le communisme, ça sera effectivement les prêtres ouvriers. Bon, donc ça c'est le grand courant, enfin me semble-t-il, de vos travaux. Et le deuxième grand courant de vos travaux, c'est le monde sans Dieu ou le monde sorti de Dieu. C'est la confrontation entre l'Église et puis, disons, le régime libéral ou le régime de liberté tel qu'il s'est progressivement installé. Et c'est, entre autres, ce livre, donc, L'ère post-chrétienne, qui est votre livre, qui est paru chez Flammarion.
À la demande de Françoise Verny.
Absolument, en 1994. Et donc, vous dites qu'un nouveau religieux s'affirme dans un monde qui est sorti de Dieu. Donc, on a là un élément de substitution. C'est le deuxième courant que vous avez étudié. Une substitution, donc, d'une vision organique, où le christianisme organisait complètement ou le plus complètement possible ou le moins imparfaitement possible la vie sociale des individus à une vision libérale, donc la liberté comme à la fois un problème et comme une solution. Voilà. Donc il me semble que là, il y a les deux gros courants, enfin les courants importants de vos différentes études. Et donc là, effectivement, maintenant, vous nous livrez donc ce livre, France chrétienne, France laïque.
Ce qui meurt et ce qui naît en sous-titre.
Ce qui meurt et ce qui naît en sous-titre. Et dans votre livre, vous considérez ce livre-là comme une forme de testament intellectuel et spirituel. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est testament intellectuel et spirituel de quoi ? Il se trouve que dans ce livre, vous indiquez votre âge, vous avez 86 ans.
À l'époque, j'avais 86 ans. J'en ai maintenant de plus.
Voilà, donc 88 ans. Vous avez indiqué, il y a 50 ans, que vous avez commencé effectivement à publier des livres. Et vous travaillez effectivement sur une matière, l'Église, même si vous n'avez pas travaillé sur toute l'histoire de l'Église, qui a 2000 ans. Donc, est-ce que c'est un testament spirituel et personnel pour vous, pour le travail universitaire qui a été le vôtre, et ou pour la chrétienté qui, effectivement, est en train de vivre, si ce n'est ces dernières heures, du moins une mutation très importante?
Vous savez, moi, personnellement, je ne me perçois ni comme un historien ou un sociologue du christianisme, ni comme un historien ou un sociologue de la laïcité ou du laïcisme, mais comme un historien et un sociologue de leur conflit. Voilà, je crois que c'est ça. Et c'est ce qui fait l'unité, si vous voulez, de tout ce que vous venez d'analyser. C'est vraiment le conflit. Non pas que je sois un homme de conflit, au contraire, je pense que j'ai toujours été un homme de paix et j'ai réussi à faire toute ma carrière sur des sujets brûlants sans jamais susciter de polémique, si vous voulez. Mais je considère que les conflits sont, pour employer un terme technique, d'excellents analyseurs. C'est-à-dire que c'est en étudiant les conflits, comme quand on étudie la maladie, si vous voulez, en étudiant les conflits, qu'on réussit à comprendre ce qui est en jeu et ce qui concerne les parties en présence.
Si c'est vrai ce que vous dites sur les conflits comme symptômes.
Comme symptômes.
Donc comme crise.
Comme symptômes, voilà. Comme crise, etc. Oui. Et alors, ce sont des conflits qui, aujourd'hui, ont souvent du mal à se poser parce qu'il y a beaucoup de subjectivité dans la manière de les percevoir. Et personnellement, je sais que j'ai toujours été un homme de conviction et un homme d'engagement. Mais en même temps, j'ai toujours été très peu militant, si vous me permettez. Ou plus exactement, ma militance passe par d'autres chemins que ceux des grandes organisations, des mouvements d'action, si vous voulez. Je pense que la conviction, l'engagement personnel doit passer à travers un effort de lucidité, de conscience et par conséquent de recherche. Je crois que c'est ça le sens profond de mon travail depuis un demi-siècle. Mmh. Oui.
Et alors, pour nos jeunes auditeurs qui nous écoutent. Donc, entre le christianisme en Occident, en Europe, en France, enfin, dans les années 50,
oui,
et le christianisme aujourd'hui,
hein, oui,
donc 50, 60 ans après, quels sont, selon vous, les grands changements, parce qu'il y a des changements absolument gigantesques qui se sont opérés, quels sont les grands changements que le paysage religieux, et donc le paysage aussi social et religieux à la fois, a connus?
Bah écoutez,
vaste question. Hein,
vaste question. Je dirais qu'en 50 ans, il s'est produit beaucoup de choses. Des choses qui n'étaient pas nécessairement entièrement nouvelles, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on voyait se préparer depuis longtemps, hein, dont les milieux catholiques ont longtemps dénié la réalité, si vous voulez. Moi, je suis frappé de voir comment toutes les organisations catholiques sont portées par l'espérance que demain, enfin, ça sera autrement et comme on veut, au lieu de passer par une analyse de ce qui est et d'où on vient. Et personnellement, c'est là où je crois que mon livre « L'ère post-chrétienne » prend son sens. C'est peut-être le plus personnel de mes livres, encore plus que « France chrétienne, France laïque », si vous voulez. C'est peut-être le plus personnel de mes livres. Quand je pensais l'intituler d'abord « Un monde sorti de Dieu ». Et les commerciaux de Flammarion ont été unanimes à dire « Comment voulez-vous qu'on vende ça ?» Et donc, il a fallu changer le titre. C'est là que c'est devenu l'ère post-chrétienne. Bon, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je pense qu'au bout de deux millénaires de christianisme, les ésotéristes vous diraient nous sommes entrés dans l'ère, nous sommes passés de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Bon, on peut toujours faire des spéculations, si vous voulez, mais effectivement, au bout de deux millénaires, dans notre monde occidental, nous sommes dans un monde de plus en plus sécularisé, ce qui, par conséquent, crée une situation radicalement nouvelle pour la foi chrétienne et plus généralement l'ensemble des convictions religieuses.
Mais est-ce qu'à votre avis, cette situation que l'on connaît aujourd'hui et que vous avez effectivement analysée, est-ce que cette situation était envisageable, anticipable, prévisible dans les années 50, quand vous avez commencé effectivement à travailler sérieusement?
Écoutez,
sur
moi, quand j'ai travaillé dans les années 50, pratiquement l'athéisme était quelque chose de totalement impensable, inimaginable et hors du champ des organisations chrétiennes, tout au moins pour la plupart. Voyez-vous.
Alors qu'il y avait effectivement en face, enfin, du côté des communistes, enfin, un athéisme militant très fort.
Exactement, et que cet athéisme se présentait sous une double forme, si vous voulez, d'une part sous la forme d'un athéisme militant de conviction qui s'exprimait dans des organisations, comme des organisations laïques ou rationalistes, ou même athées, lui, un petit mouvement qui s'appelle l'Union des athées, oui. Et puis deuxièmement, surtout, parce que on a longtemps vécu dans une société chrétienne, fondamentalement chrétienne, et même, je dirais, une société catholique, c'est qu'il fallait être catholique. Et maintenant, on est passé dans une société où la religion n'a plus aucune pertinence. Elle a encore de la place, des niches, mais elle n'a plus aucune pertinence sociale. Aujourd'hui, une entreprise fonctionne sans Dieu. Encore que l'on commence à parler du retour de la religion dans les entreprises, du retour du religieux dans les entreprises. Mais je dirais, attention, c'est tout à fait différent. Le retour du religieux dans les entreprises, c'est la place qu'on fait à certains travailleurs, à certains salariés, de pouvoir prier. Bon, mais comment dire, l'usine en elle-même, il y a toujours eu de la place pour les patrons croyants, les cadres croyants, les salariés croyants. Vous voyez, regardez la Confédération française des travailleurs chrétiens, la CFTC, qui est un syndicat chrétien. Bon, mais disons que structurellement, une entreprise fonctionne sans Dieu. Notre économie aujourd'hui fonctionne sans Dieu. Elle fonctionne avec le Nasdaq et le CAC 40. Elle ne se réfère plus à Dieu.
Et on voit de quelle manière, effectivement.
On voit de quelle manière.
Et ce que je dis pour les
entreprises, c'est encore plus vrai pour le monde de la recherche scientifique. Disons, en gros, les laboratoires. C'est encore plus vrai.
Alors, je voudrais en venir à cette sociologie religieuse qui est effectivement la vôtre. Alors, vous précisez, vous l'avez dit juste en débutant notre entretien, que vous êtes, et vous le redites dans vos différents livres, vous n'êtes ni historien, ni théologien, mais sociologue. Et une forme de sociologie qui pratique, ou qui a toujours cherché à pratiquer, l'interdisciplinarité.
Oui.
Bon, à mettre en commun, ensemble, des disciplines.
C'est comme ça que je suis venu à l'histoire, l'histoire de la théologie. Je ne suis pas théologien, mais je m'intéresse à l'histoire de la théologie, comme une forme de pensée chrétienne, si vous voulez.
Et puis même vous intéressez à l'histoire, enfin l'histoire.
Oui.
Voilà.
D'ailleurs, je pense que on ne peut rien comprendre à une institution comme l'Église chrétienne, très précisément l'Église catholique, si on ne tient pas compte qu'elle a quand même 2000 ans d'existence.
Cette sociologie religieuse-là semble venir d'un de vos maîtres, enfin Gabriel Lebras, qui distinguait deux forme de sociologie religieuse, la sociologie confessionnelle et la sociologie universitaire.
Oui.
Et lui, son idée, c'était d'instaurer une forme de sociologie qui n'était pas tellement corrosive et qui cherchait à réconcilier, d'une certaine façon, religion et sociologie, et la sociologie confessionnelle et la sociologie universitaire. Alors, ce projet qui semble avoir été effectivement le sien et le vôtre, si j'ai bien compris. Enfin, vous mettrez les nuances.
Je n'oserais pas dire que c'était le sien et le mien, si vous voulez. Gabriel Lebras était un grand juriste, un historien du droit canonique et des institutions chrétiennes, qui connaissait par cœur son corpus médiéval, qui était par ailleurs très catholique, mais en même temps très laïque, et qui, pour ses recherches, savait qu'il avait besoin du clergé. Et surtout, Gabriel Lebras, et sa sociologie a un point de départ très précis, et je crois que c'est très important à bien le comprendre. Gabriel Lebras m'a expliqué un jour comment il était devenu sociologue. Il était juriste, et place du Panthéon, il discutait avec un de ses collègues, beaucoup plus âgé que lui et respectable, qui était un spécialiste du divorce. Et Lebras lui a demandé combien y a-t-il de divorcés chaque année en France, dans le département de la Seine et à Paris. Et ce collègue lui a répondu, « Mon cher collègue, je ne m'occupe pas des divorcés, je m'occupe du divorce. » Et Lebras a fait le rapprochement avec les normes canoniques, c'est-à-dire qu'il y a des prescriptions canoniques, tu communieras une fois par an au minimum, tu iras à la messe tous les dimanches, etc. Tu enverras tes enfants au catéchisme, etc. Mais il dit, mais ça, nous nous rabâchons toutes ces normes sans savoir comment elles étaient vécues et appliquées. Et c'est là où il a lancé sa grande enquête. Disons, nous ignorons tout des 40 000 églises, des 40 000 clochers qui ont fait la France. Et donc, il a lancé son enquête sur la pratique religieuse sous l'Ancien Régime, au XIXe siècle et de nos jours. Mmh. Oui.
Mais
cette sociologie. Et par conséquent, c'était mettre les instruments universitaires au service, si vous voulez, d'une curiosité proprement universitaire et qui, en même temps, allait au cœur des problèmes religieux.
On est d'accord qu'effectivement, alors, pour rebondir plus particulièrement sur vous, que cette sociologie qui était la vôtre, que vous avez cherché à promouvoir depuis les années 50, était une sociologie, disons, qui était large, qui n'était pas corrosive au sens, qui n'était pas en opposition frontale avec la religion, et qui, d'une certaine façon, visait à se servir de toutes les disciplines possibles pour expliquer ce qu'on appelle maintenant le fait religieux. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que la sociologie religieuse telle que vous l'avez pratiquée, telle que vous l'avez promue, telle que vous avez voulu la mettre en avant, que cette sociologie-là a, d'une certaine façon, un peu disparu, au profit peut-être d'une sociologie plus durkheimienne, qui explique plus le religieux par le social, et qui est peut-être plus en conflit, enfin, ou en opposition, enfin, avec le religieux vécu par les chrétiens et ou par les autres religieux.
Vous savez, moi j'appartiens à la génération qui a fondé en France la sociologie de terrain. Pensez à des gens comme Alain Touraine, pensez comme Edgar Morin, pensez comme Henri Bandras, on pourrait continuer, si oui, Michel Crozier. Hein. Bon, c'est une génération qui a fondé la sociologie de terrain, si vous voulez. Auparavant, il y avait effectivement, enfin, Durkheim est un homme qui n'avait jamais quitté sa chaire de Bordeaux ou à la Sorbonne, si vous voulez. Bon, Marcel Mauss a beaucoup parlé, et Lucien Livrul ont beaucoup parlé des tribus primitives, des populations primitives, mais disons, ils n'ont jamais quitté Paris. Et donc, c'est là où il y a. Et cette nouveauté, nous la devons en particulier à la découverte de la sociologie américaine qui a débarqué en France après la libération. Oui. Donc, cette génération. Si bien que, disons, nous avons tous été formés un petit peu de briques et de broc sur le terrain. Nous sommes tous un petit peu autodidactes. On a appris en lisant, on a appris avec quelques maîtres comme Georges Friedman, Gabriel Lebras, Raymond Aron, si vous voulez. Bon, mais en même temps, on a surtout appris parce qu'on était sur le terrain, chacun sur nos terrains à nous, vous voyez. Le problème de la pratique religieuse, c'était le problème d'une sociologie du culte. Or, personnellement, il m'apparaissait qu'il y avait quelque chose de plus fondamental que le culte dans la situation présente. Je parle au plan sociologique, je ne parle pas au plan doctrinal, si vous voulez. C'était la culture. Et que la culture catholique était entrée en crise depuis au moins le début du siècle, et même depuis deux siècles avec la Révolution française et avec l'avènement des Lumières. Oui. Par conséquent, vous voyez, Gabriel Lebras voulait faire une sociologie cultuelle et moi une sociologie culturelle, hein, de la culture religieuse. Et c'est comme ça que je suis allé à la crise moderniste, si vous voulez, après avoir étudié Charles Fourier, parce que les premiers socialistes, qui étaient tous utopiques en même temps des socialistes religieux, c'était déjà une manifestation de cette crise. Hein. Il ne faut pas oublier que quelqu'un comme Henri de Saint-Simon a écrit un livre intitulé « Le nouveau christianisme ». Vous voyez dans quel contexte s'inscrit un petit peu ma recherche à ses débuts.
Mais est-ce que vous trouvez que la sociologie religieuse telle qu'elle est pratiquée, et en particulier dans votre noble maison, enfin, je pense
à l'école des hautes études, oui.
Oui, oui, voilà. Oui. Donc, je pense en particulier à...
Bah écoutez, moi je suis quelqu'un qui n'a jamais cherché à faire école, qui n'a jamais cherché à faire des disciples. Quand j'ai eu des auditeurs, je n'ai jamais été une mère poule, je leur disais toujours, écoutez, allez voir ailleurs, vous verrez, c'est beaucoup plus intéressant que ce que je fais. Bon, ceci dit, j'ai des amis, des disciples, appelez ça comme vous voulez, un petit peu dans le monde entier, qui n'ont jamais formé ni une académie, ni un centre de recherche, ni un laboratoire. Ils se sont dispersés eux-mêmes et ils sont là sur le terrain. J'ai des amis en Amérique latine, j'en ai en Afrique, j'en ai en Espagne, en Italie. Comment dire, en France, je pourrais vous en donner, mais ils se connaissent ils n'ont jamais eu l'idée de faire un groupe de sociologie poulatienne, si vous voulez, comme on a parlé de la sociologie lebrasienne.
Mais par exemple, il ne me semble pas, je me trompe peut-être, hein, mais il ne me semble pas que Durkheim soit chez vous une référence très forte, alors que aujourd'hui, et vous m'en prenez si je me trompe, dans la sociologie religieuse telle qu'on peut la voir un peu de loin, enfin, ce qui est mon cas, elle, enfin, Durkheim a l'air d'être la référence la plus importante.
Écoutez, nous, notre préoccupation de cette génération fondatrice, avec François Isambert, Jacques Maître et surtout Henri Desroches, si vous voulez, qui a été le fédérateur, on savait bien qu'on était des autodidactes d'une certaine manière. Quand on est sur le terrain, il faut se débrouiller sur le terrain. Il n'y a pas de maître qui compte sur le terrain. On peut vous apprendre à lire une carte. Hein, mais lorsque vous êtes sur le terrain, la carte, ça ne vous sert pas à grand-chose. En tout cas, ce n'est pas suffisant, si vous voulez. Donc, on a donc toujours eu, en même temps, le souci de faire connaître les grands maîtres. Vous voyez ? Donc, on a fait connaître Durkheim, on a fait connaître Simmel, on a fait connaître... Bon. Or, l'enseignement de la sociologie s'est fait beaucoup plus à partir de l'enseignement des grands classiques, hein, qu'à partir de l'école de terrain. Et donc, vous avez raison d'invoquer Durkheim, mais en réalité, celui qui a beaucoup marqué, plus que Durkheim, c'est Max Weber. Max Weber qui est resté un inconnu en France pendant 50 ans, si vous voulez, et qui a été introduit...
Par Raymond Aron.
Par Raymond Aron, et donc les œuvres de Max Weber ont été traduites, si vous voulez. Oui, effectivement, Aron était le seul qui, en 1900, avant la guerre, déjà s'était 30, intéressé à la sociologie allemande.
37, 38.
Il a été très novateur. Donc, Max Weber est devenu un petit peu Max Weber, Durkheim, un petit peu Simmel. Mais c'était surtout Max Weber et Durkheim, si vous voulez. Et alors, je vois un de mes collègues, comme Jean Segui, s'est fait un petit peu le promoteur de cet enseignement. Et c'est là qu'il a véritablement formé un ensemble de... à partir de grands classiques. Mais alors, à ce moment-là, les grands classiques, qui étaient souvent des classiques en chambre, si vous voulez, des sociologues de bibliothèque, si je peux dire, eh bien, sont devenus une sorte de boîte à outils, si vous me permettez. Alors, Durkheim, aujourd'hui, Max Weber, c'est vraiment des boîtes à outils. On apprend aux étudiants à se servir de cette boîte à outils. Alors que personnellement, je dis, écoutez, moi, les clés, c'est très bien. Moi, je préfère les serrures.
Mais pour reposer ma question autrement, qu'est-ce que vous pensez de la sociologie religieuse d'aujourd'hui, telle qu'elle est pratiquée par les générations qui vous ont succédé ?
Je ne peux pas dire que j'en pense beaucoup de bien, dans la mesure où elle-même n'attache pas grand intérêt à ce que je fais. C'est réciproque, vous voyez.
Pourquoi ? Parce que vous considérez qu'elle est trop théorique ou vous considérez qu'elle a perdu un peu trop le contact avec le terrain tel que vous-même avez voulu l'introduire ou le réintroduire ou parce qu'il y a une forme de militance ou de militantisme qui n'était pas le vôtre et qui est peut-être
Il y a tout ça mélangé. C'est-à-dire que je sais qu'un des grands débats, c'est autour de l'objectivité. Vous savez, il faut être objectif, l'objectivité n'existe pas. Bon, il y a là le type du faux débat intellectuel, universitaire, autour de concepts. Si vous voulez, personnellement, moi, je pense que le problème n'est pas l'objectivité, le problème, c'est la distance à soi-même. Oui. Et une sorte de discipline interne. Qui vous permet de maîtriser, de mesurer votre propre distance aux autres et aux objets. Oui. Bon, maîtriser sa subjectivité, c'est beaucoup plus important. Alors actuellement, moi, je vois que ça n'est pas le problème. Moi, j'ai jamais eu de compte à régler avec l'Église, jamais eu de compte à régler avec personne. D'ailleurs, si j'en ai eu dans ma jeunesse, c'est avec moi, mais en tout cas pas avec les autres, si vous voulez. Bon, nous vivons dans une société où les gens passent leur temps à régler des comptes vrais ou faux, petits ou grands entre eux, si vous voulez, sans jamais en sortir.
Je voudrais qu'on aborde cette question effectivement. Alors, on pourrait faire effectivement, comme vous l'avez fait avec Daniel Masson. Sont des heures d'entretien sur tous vos travaux, mais sur cette...
Oui, je vais...
Non, je vous en prie, allez-y.
Vous savez, moi, je suis quelqu'un qui parle avec tout le monde. Les entretiens avec Daniel Masson le sont. Bon, je parle avec des intégristes, je parle avec des communistes. J'ai toujours parlé avec tout le monde. J'ai toujours fréquenté tout le monde. Sauf quand les gens sont infréquentables, ce qui arrive quand même. Il faut savoir toujours quand même où on met les pieds, quoi.
Je voudrais juste que vous nous disiez un peu, aujourd'hui, le bilan que l'on peut faire. Vous me direz, là aussi, c'est une vaste question. Mais de la crise moderniste. Alors, la crise moderniste, vous avez passé des pages et des années à travailler les sujets. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on regarde effectivement cela avec le rétroviseur, est-ce qu'on peut considérer que la crise moderniste a été une forme de crispation déraisonnable, d'occasion perdue par l'Église pour se moderniser ? Et est-ce que, d'une certaine façon, les conflits étaient tellement forts d'un côté ou de l'autre, enfin, que le juste milieu... Par exemple, on peut imaginer quelqu'un comme le père Léonce de Grandmaison était peut-être un peu dans ce juste milieu, que ce juste milieu n'a pas tenu, n'a pas réussi à tenir, et que d'une certaine façon, les forces en présence étaient trop fortes. Quel regard, quel bilan, aujourd'hui, faites-vous de cette crise moderniste, non pas dans son déroulement, non pas dans son, mais dans cette histoire de l'Église qui, effectivement, aujourd'hui, révèle peut-être des éléments qui étaient déjà présents au moment de la crise moderniste et qui n'ont pas réussi ou pu, à ce moment-là, s'épanouir comme ils auraient sans doute dû.
Bah écoutez, il faut d'abord savoir de quoi on parle. Je sais que dans les milieux catholiques, tout a été fait pour réduire la crise moderniste à une peau de chagrin et montrer que finalement, tous les problèmes avaient été surmontés, résolus, grâce à la condamnation et à un effort, etc. En réalité, moi, je pense que le problème se pose tout à fait autrement, si vous voulez. Je pense d'abord que le modernisme, je l'ai toujours dit, ne se limite... Et c'était ce qu'on pensait sous le pape Pie, si vous voulez. Et même à la curie romaine, encore au temps de Pie XII, c'est que le modernisme ne se réduisait pas à la manière de lire la Bible, aux problèmes posés par l'exégèse biblique, pas même non plus à l'histoire des origines chrétiennes, mais que finalement le modernisme était lié à la nouvelle attitude de la culture contemporaine. Prenons un exemple. Moi, je dis aujourd'hui que nous sommes tous modernistes. Et comment dire, Jean Madiran l'a relevé dans Présent, en rendant compte de mon livre, disant que c'était un événement religieux que je dise que nous sommes tous modernistes. Mais je dirais même lui. Parce que...
Alors, tous modernistes, ça veut dire quoi dans votre esprit?
Ben, nous sommes tous modernistes. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, tout le monde, disons les miracles de Lourdes, par exemple, avaient une résonance considérable. Bon, aujourd'hui, quand on interroge un historien catholique, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des miracles de Lourdes. Il répondra qu'en tant que catholique, il y croit, mais qu'en tant qu'historien, le miracle, c'est ce qui est considéré comme tel par l'Église. Lui-même n'a pas qualité pour se prononcer sur le miracle. Je dirais, en cela, il est moderniste. Oui, parce que au début du siècle, il y a un siècle, on ne faisait pas cette distinction. On pourrait prendre des exemples dans tous les domaines, si vous voulez. Aujourd'hui, nous vivons dans ce monde comme si Dieu n'existait pas, ce qu'on dit depuis Spinoza.
Et donc,
comme si Dieu n'existait pas.
Donc le modernisme dont on parle, c'est cela.
Et le modernisme,
pour vous, c'est cela.
Pour moi, c'est ça.
Voilà.
C'est le fait de vivre dans un monde sorti de Dieu. Et je dirais, certains se battent contre ça pour revenir à un monde qui rentrerait en Dieu, si je peux dire. Et d'autres pensent que c'est du temps perdu, qu'il faut apprendre à vivre religieusement, chrétiennement, dans un monde sorti de Dieu.
Donc vous, ce que vous dites, c'est que le cœur, enfin le noyau, hein, le noyau de ce modernisme, enfin, cette crise moderniste, c'est effectivement, d'une certaine façon, le dédoublement, c'est ça, enfin, l'idée qu'il fallait accepter un monde sorti de Dieu, voilà, d'une part, et deuxièmement, que chaque individu était double.
Était double, oui. Voilà.
Voilà, c'est ça pour vous le cœur du
cœur. Pour moi, c'est le cœur de la situation que nous vivons.
Oui, absolument.
Et c'est en cela qu'elle apparaît comme critique, parce que c'est tellement nouveau que vivre cela apparaît comme invivable à beaucoup de chrétiens. Et par conséquent, il faut se battre pour remonter le courant. Or, on ne remontera pas le courant, on ne reviendra pas à la source.
Et est-ce que vous considérez, pour en terminer provisoirement, parce que je renvoie les différents interlocuteurs à différents livres que vous avez pu faire sur ce sujet, mais est-ce que vous considérez que la crise moderniste, telle qu'elle s'est déroulée, a été une occasion gâchée, perdue par l'Église de justement faire ce saut-là, cette mise à niveau culturelle, cette acceptation du monde tel qu'il est et non pas tel qu'on pouvait le regretter.
Je dirais que, bien sûr, on peut regretter mais en même temps, quand on voit l'état des esprits, quand on voit la mentalité de l'époque, quand on voit l'état de la culture, on se dit que c'était pratiquement inévitable. Parce qu'il ne faut pas oublier que la crise moderniste, c'est Alfred Loisy, 1903, 1907, 1908, vous voyez, le début du XXe siècle. Enfin, n'oublions pas qu'avant Loisy, il y a eu quand même Ernest Renan. Et à l'époque, on le savait. Ce qu'il y a de plus intéressant, c'est que finalement, l'Église catholique a formé des générations de modernistes, parce qu'on a condamné Loisy. Hein Mais pour répondre à Loisy, le pape Pilis a fondé l'Institut biblique pontifical. Or, qu'a fait l'Institut biblique pontifical? Il a formé des générations de maîtres, 15 000, 2 000 peut-être, qui sont devenus professeurs de faculté ou de séminaire, et sur la base, disons, de l'exégèse biblique telle que tout le monde la pratique. Je ne dis pas qu'ils sont tous dans les mêmes dispositions d'esprit, parce qu'en pratiquant cette exégèse et ces méthodes, comment la foi chrétienne peut-elle survivre personnellement? De là, de nombreuses crises religieuses, personnelles, si vous voulez. voulez. Mais je crois que ce problème des crises religieuses personnelles est à distinguer très profondément des méthodes qui sont, je dirais, aujourd'hui universellement pratiquées.
Et puis avec, effectivement, le rappel à l'ordre fait par Benoît XVI dans son Jésus de Nazareth sur peut-être un excès de ces lectures historico-critiques qui font perdre, pour un chrétien, le sens.
Alors là, si vous voulez, je pense qu'il y a un homme qui a joué, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure, je pense qu'il y a un homme clé ici, c'est le père de Lubac, le cardinal de Lubac. À mon avis, c'est le grand théologien du XXe siècle, et celui, je ne dirais pas qui a apporté la solution, mais qui a ouvert une voie.
Alors nous allons arrêter là cette première partie de notre entretien pour reprendre aussitôt après.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard-Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Nous reprenons pour terminer l'entretien que nous avons avec Émile Poulard, suite à la publication de son livre « France chrétienne, France laïque », entretien avec Daniel Masson. Et alors, je voudrais plutôt rebondir sur la dernière partie de vos entretiens et rebondir un peu sur l'ère post-chrétienne, donc livre que vous avez fait paraître chez Flammarion en 1994 et qui est, disiez-vous, votre livre le plus personnel, pour essayer de voir, avec le recul qui est effectivement le vôtre, de réfléchir un peu sur cette société qui tente à se séparer de plus en plus de l'emprise de la religion, la modernité, la postmodernité, ce que vous appelez l'ère post-chrétienne. Vous dites, c'est une des convictions que vous indiquez à la fin de votre livre, qu'il ne faut pas attendre ni escompter le pire. Alors ma question, c'est de dire, on voit bien que tous les indicateurs sociologiques laissent à penser que la religion catholique en France est en train de décliner dans la pratique et autre chose. Pour autant que la chose soit possible, est-ce que vous voyez ou est-ce que vous avez une idée, toujours dans l'idée de on voit ce qui meurt mais on ne voit pas ce qui naît, est-ce que vous avez une idée ou une vision comme ça de ce que l'Église catholique peut devenir en France dans 50 ans? Ou est-ce que c'est un exercice de prospective qui dépasse toute forme de compréhension
non,
possible.
Non, écoutez, il y a d'abord une première chose, c'est que le catholicisme n'est pas seulement français, il est universel. Il ne faudrait jamais oublier déjà tout ce qui se passe dans le reste du monde, si vous voulez. Et il y a des endroits où l'Europe occidentale, c'est bien connu, mais à côté de ça, quand on regarde ailleurs, il y a des endroits où le christianisme se porte bien, et, je dirais.
Et même très bien,
et avec des avancées significatives. Encore que, il faudrait regarder ça, replacer tout ça dans l'ensemble. Bon, c'est un énorme travail. Je ne m'y aventure pas ici, si vous voulez. Bon, alors, je me limite donc à la France. Et à moi, ce qui me frappe, c'est que tout le monde se plaint de la mort de la religion, du déclin du christianisme.
Mais se plaint et où constate.
C'est l'éternelle question posée au cardinal de Bernis au XVIIIe siècle, à qui on demandait comment il se portait, et qui répondait « Tout dépend quand je me considère ou quand je me compare ». Or, on considère le christianisme, on considère l'Église, on ne la compare jamais. Or, aujourd'hui, qu'est-ce que vous regardez? Vous regardez partout, on vous dit que le Parti socialiste est au bord de l'implosion, le Parti communiste n'existe plus, les syndicats, c'est pas grand-chose, les partis politiques. Bon, écoutez, aujourd'hui, quand on regarde les choses objectivement, on s'aperçoit qu'on a une Église qui souffre beaucoup, dans un pays qui souffre encore plus. Si vous voulez, moi, c'est déjà la première constatation qu'il faut faire. Moi, je suis frappé de voir les formes de vitalité du catholicisme. Alors, ce dont je suis convaincu, c'est que ça n'est pas cela qui rétablira la situation antérieure. Et donc, il faut regarder vers l'avenir et non pas vers le passé. Ça n'est pas demain que nous referons une société chrétienne comme elle l'était sous l'Ancien Régime. Mais précisément, c'est peut-être ça qui est mis en cause. C'est qu'il y a un examen de conscience considérable pour savoir est-ce que le royaume de Dieu, est-ce que l'avenir de l'Église, si vous voulez, c'est de refaire une société chrétienne comme on a tellement rêvé, et encore tout au long, ça a été le grand rêve de l'Action catholique. Bon, c'est déjà la première question, mais quand on compare, on s'aperçoit qu'il y a une vitalité énorme. On considère la pratique religieuse. On dit il y a de moins en moins de monde à la messe. C'est vrai, mais d'abord parce que le christianisme était essentiellement rural, que maintenant il est devenu urbain, que deuxièmement les rythmes de vie se sont modifiés, que troisièmement même dans la mentalité religieuse, assister à la messe n'apparaît plus comme l'acte central de la vie du village, si vous voulez. Autrement dit, il y a des transformations extrêmement profondes. Si vous voulez, quand je regarde les choses, je dis au sommet, il y a l'État. Il y a l'État. Après, il n'y a rien. Et puis après, on voit l'Église catholique. Et puis après, il n'y a rien. Et puis après, on commence par voir, la Ligue française de l'enseignement. Et puis après, il n'y a rien encore. Et on arrive à trouver la franc-maçonnerie, la Ligue des droits de l'homme, les partis politiques, les syndicats. Qu'est-ce qui peut aligner le Secours catholique, avec il y a quand même 1 million de donateurs. Bon, écoutez, c'est peut-être pas des bons catholiques, mais qu'est-ce que c'est, quoi. Et puis après, vous avez aide à l'Église en détresse, vous avez le CCFD, vous avez l'Ordre de Malte, vous avez Emmaüs, tout ce qui est sorti. C'est impressionnant.
Tous ces éléments-là sont des éléments, effectivement, qui laissent à supposer que dans une société qui se désolidarise, qui se désaffilialise, enfin, excusez-moi ce barbarisme, enfin, bon, qui n'a pas le sentiment d'appartenance et donc d'affiliation, l'Église catholique, dans nos pays, tient quand même une place relativement importante par rapport à tous les autres organismes les autres structures qui perdent beaucoup.
Et je dirais, la vitalité religieuse prend d'autres formes. Aujourd'hui, regardez la place prise par les pèlerinages et ce que les sociologues appellent l'hôtellerie religieuse.
Oui, oui.
Regardez que signifie, par exemple, que le monument le plus historique, le plus visité de France, c'est Notre-Dame avec 13 millions de visiteurs. Et qu'en dessous, ce qui vient ensuite, c'est la moitié. Et je dis Notre-Dame, mais il y en a d'autres. Le Sacré-Cœur de Montmartre... Le Mont-Saint-Michel, Et il y a en plus une visibilité qui pose même des problèmes, parce que faire de tout ce patrimoine culturel?
Mais de façon générale, est-ce que vous avez le sentiment qu'une société, quelle qu'elle soit, peut vivre sans religion et ou sans Dieu au singulier et ou au pluriel? Parce que vous dites quand même qu'on est quand même dans une situation inédite.
Si j'étais un théologien, je vous répondrais, je suis convaincu que non. Si je suis sociologue, essayons et on verra. Comme sociologue, je vous dis essayons et on verra. Comme historien, je peux vous dire, on a essayé, on a vu, au moins en partie. On a vu quand même toute la période soviétique. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe en Ukraine, regardez ce qui se passe même en Russie, si vous voulez, la reconstruction de la cathédrale, le patriarche Alexis, etc. Je dirais, aujourd'hui, en Russie, l'Église orthodoxe se porte mieux que l'ancien parti communiste.
Cette Église orthodoxe est... renaît de ses cendres, comme si 70 ans de communisme avait...
Et alors aujourd'hui, considérons que la France est un pays sans Dieu, non pas athée au sens soviétique, si vous voulez, mais sans Dieu, dans un monde sorti de Dieu, regardez la violence juvénile aujourd'hui, avec le couteau, le revolver, tous les gémissements que chacun fait sur la dégradation de la société, si vous voulez, on dit, le temps où les enfants recevaient les bons principes dans les patronages, on regrette ce temps.
Vous, en tant que sociologue, vous voyez un lien entre un certain développement de la violence?
Je constate, si vous voulez, que notre société s'est affranchie de la religion et ne l'a remplacée par rien. Alors, d'une part, elle est seule à assumer la responsabilité, elle ne peut plus accuser l'Église maintenant. Non seulement elle ne peut plus accuser l'Église, mais elle-même, actuellement, n'apparaît pas en mesure de contrôler les phénomènes qui se développent en son sein. La question que vous me posez, je réponds en vous demandant de regarder le problème tel qu'il se pose, plutôt que de vous apporter la réponse au problème.
Oui, c'est-à-dire que le problème tel qu'il se pose, c'est quand même effectivement des phénomènes d'anomie, comme on dit, et qui sont, dans votre esprit, grandement liés à cette désaffiliation religieuse, telle que constatée. Et que donc le social ne peut pas tenir, c'est ça? Ne peut pas tenir indépendamment de quelque chose qui serait de l'ordre du religieux.
Autrefois, il y avait des cours d'instruction morale et religieuse remplacés par des cours d'instruction civique et morale, si vous voulez. Bon, aujourd'hui, il n'y a même plus ça, quoi. Donc, on accumule, les gens arrivent. Autrement dit, actuellement, nous créons des problèmes que nous, que nous ne savons pas résoudre et dont nous n'avons même pas souci de chercher la solution. Alors, vous avez la solution, vous avez la situation actuelle, Brice Hortefeux. Et que fait Brice Hortefeux ? Il écrit aux évêques pour se plaindre de leur... Bon, pourquoi Brice Hortefeux écrit-il aux évêques ?
Oui, pour peut-être trouver une solution qu'il n'a pas par lui-même. Monsieur Poula, merci beaucoup donc de nous avoir consacré tout ce temps sur ces questions effectivement relatives à cette sociologie religieuse qui a été le cœur de votre travail. Nos auditeurs peuvent retrouver une seconde émission bientôt sur un autre aspect, un autre pan ô combien important de votre œuvre, à savoir cette question de la loi de 1905 et puis surtout de cette laïcité. Tout le monde sait bien, tout le monde s'est rendu compte que vous intervenez régulièrement sur cette question de laïcité pour rectifier un certain nombre d'erreurs, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, autour de cette loi, autour de cette séparation, autour de tout ce corpus que tout le monde croit connaître, mais que personne ne connaît, ou du moins que personne ne connaît aussi bien que vous-même. Donc j'invite tous nos auditeurs à nous retrouver bientôt sur Canal Académie pour une deuxième émission sur cette question de la laïcité. Monsieur Poula, merci.
Merci à vous de m'avoir donné cette occasion.